Merci Charles Dantzig, et on vous retrouve avec joie et avec vous, l'univers de Proust, la semaine prochaine.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage.
Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage.
Je ne sais pas comment expliquer le succès de ce titre, parce qu'il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens avaient envie de danser.
Si vous voulez savoir ce que ça rapporte, c'est très difficile à dire. Il y a pas de... Ça va entre 10 millions jusqu'à... 50 millions, si vous voulez.
Ancien, oui.
Ancien. Pour un disque.
La série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, nous sommes ensemble en direct sur France Culture pour une émission libre de toutes les provenances, de toutes les matières sonores, de tous les kitschs. Et oui, nous assumons une émission estivale, une émission hantée par des mélodies efficaces et ensoleillées, des mélodies qu'on prend plaisir à détester. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Italianité, Sara perché ti amo, Ricky et Poveri, c'est un très bel exemple de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez ici un tempo qui réunit à la fois une grande énergie et une ambiance dite chill. Une langue, l'italien, que personne ne parle vraiment, mais que l'on reconnaît assez aisément. On sait immédiatement que cette chanson parle d'amour. Et donc, ces quatre éléments, un rythme fort, une langue qui évoque les vacances, une allusion à l'amour. Eh bien, ces quatre éléments, on les retrouve dans à peu près toutes les chansons que vous avez entendues dans ce magnifique mash-up que nous a préparé notre réalisateur Luc-Jean Reynaud en introduction. Ces quatre éléments, eh bien, ils sont tous présents dans ces chansons qui nous intéressent aujourd'hui parce qu'ils sont un objet culturel qui, qu'on le veuille ou non, nous hante. Des objets culturels qui sont basés sur des mélodies qui, qu'elles soient traînantes ou entraînantes, s'installent dans nos oreilles malgré nous ou avec joie et qui nous signalent toujours de manière presque inconsciente mais avec une immense fermeté que oui, nous sommes bien entrés dans la période estivale et que cette mélodie, elle va nous hanter tout au long de la saison et que plus tard, quand nous l'aurons entendue, réentendue, parfois subie jusqu'à l'écœurement, cette mélodie nous rappellera ce que nous étions, ce que nous ressentions, ce que nous faisions cet été-là. Cet été qu'elle avait, dès en général le mois d'avril ou de mai, cet été qu'elle n'avait cessé de nous annoncer. Pour cette avant-dernière série musicale, nous auscultons donc cet élément indispensable de notre culture populaire, mais aussi, qu'on le veuille ou non, de notre mémoire, ce qu'on appelle le tube de l'été. Mais depuis quand existent-ils, ces tubes de l'été? Quelle est la recette, magique ou pas, qui garantit leur succès? En existe-t-il vraiment une de recettes? Et pourquoi nous sont-ils si délicieusement insupportables? Pourquoi sont-ils d'ailleurs toujours associés plus ou moins aux pays latins, l'Italie, l'Espagne, le pays d'Amérique latine? Existe-t-il, sans doute oui, de bons tubes de l'été musicalement? Né il y a presque 100 ans, ce concept de tube de l'été survivra-t-il surtout aux années 2020? Tentative de réponse évidemment subjective, presque parfois écœurante, et on s'en excuse d'avance, tout de suite sur France Culture. Ricky et Poveri, nous sommes en 1981, ce type de l'été a déjà commencé à faire ses victimes en Italie quand il est choisi pour être dans la bande originale du film L'Effronté de Claude Miller qui met en scène la très jeune et très délicieuse Charlotte Gainsbourg qui vit l'un des étés les plus importants de sa vie. C'est comme ça que cette chanson est donc adoptée en France et dans tout le reste de l'Europe. Elle devient donc le tube de l'été 1981 à l'échelle de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'un tube d'été, surtout? De quel été parle-t-on? De l'été européen? De l'été américain? D'un été qui serait particulièrement français? D'un été qui serait mondial? Autant de questions que ce concept même de tube de l'été pose. Spotify a mené une enquête avec son algorithme pour définir ce que serait, à l'échelle de 70 ans, ce que Spotify appelle un « successful summer hit ». Il correspondrait à une équation très précise mathématiquement. Un tempo qui compterait pour 1,48, qui serait donc plus rapide que la majorité des sons diffusés sur Spotify de 1,48%, un potentiel dansant à 1,17, il faut donc qu'un tube d'été soit dansant, mais pas nécessairement beaucoup, une résonance acoustique qui soit limitée et une atmosphère optimiste, c'est l'élément le plus important. Élément aussi très important, les voix de femmes qui sont plus aiguës et plus capables d'insuffler la dynamique seraient présentes dans 75% des tubes de l'été du XXe siècle. Pour une fois, on a du sexisme dans le bon sens. C'est donc théoriquement la recette parfaite pour un tube de l'été à l'échelle de 70 ans. Mais en réalité, de quand date ce concept? De quand date l'idée d'une suprématie d'une chanson durant la période estivale? On sait qu'aux États-Unis, la New York Tribune, journal en vogue dans la capitale économique des États-Unis, invite dès 1910 ses lecteurs de la ville de New York à identifier ce qui sera bientôt The Song of the Summer. Notez bien la différence, on ne parle pas encore de summer hit, le hit en anglais voudrait dire le coup, on ne parle pas encore d'une chanson qui vous frapperait, mais d'une chanson de l'été. À cette époque-là, en réalité, on parle des chansons qui seront vendues sous forme de partitions. Rappelons qu'à l'époque, la radio est inexistante. Mais il existe déjà l'idée d'un air qu'on jouerait particulièrement dans les bals et qui pourrait s'imposer aux États-Unis dans une période très précise entre le Memorial Day, le jour de célébration de forces armées qui seront tombées au combat et qui a lieu en général fin mai aux États-Unis, et le Labor Day qui lui a lieu en septembre, sachant qu'entre les deux on trouve la fête nationale aux États-Unis du 4 juillet. Et l'idée c'est à ce moment-là d'avoir compris quelle chanson sera la plus jouée par des orchestres, par des personnes en live. Et finalement, c'est en 1923 que s'impose véritablement la première Song of the Summer. Elle est écrite par Frank Cohen et Irving Cohn. Elle est publiée en mars 1923 sous forme de partition et reste à ce jour l'une des partitions qui s'est le plus vendue aux États-Unis de tous les temps. En août 1923, on en a déjà vendu 17 millions de copies. Dans la foulée, l'orchestre de Sam Lenin, qui est en tournée aux États-Unis, l'enregistre et elle est jouée sur le tout premier réseau de radio national. C'est la première chanson de l'été que l'on va pouvoir écouter collectivement tous en même temps dans la même version. Elle est assez drôle, assez absurde. C'est « Yes, we have no banana today ». Thank you. Sam Laline et son orchestre, Yes, we have no banana today. Oui, nous n'avons pas de banane aujourd'hui, phrase qui aurait été prononcée par un épicier grec dans les rues de New York, phrase un peu absurde. Car oui, les premiers tubes de l'été ont en tout cas cette nécessité d'avoir un moment musical qui marquerait l'entrée dans la saison. Il s'adresse avant tout aux citadins, notamment aux habitants de la ville de New York, qui devient extrêmement chaude l'été. Citadins qui ont l'occasion, en tout cas l'envie, le rêve de s'évader, de quitter la ville au moment de l'été. Sachant que l'été, en ce début du XXe siècle, reste pour l'immense majorité partie de la population occidentale un moment de travail harassant. Dans les campagnes, on n'est absolument pas en train de prendre des vacances. Mais cette conjonction entre ce désir d'une population de plus en plus urbaine de s'évader au moment des grandes chaleurs, qui coïncide avec la généralisation totale de la radio, va donner naissance à ce moment un peu d'écoute collective, ou en tout cas de mise au diapason de tous les désirs. Évidemment, quelques années plus tard, cette grande folie du tube de l'été commence à apparaître en France, notamment dans les années 30, où déjà les populations des villes, elles aussi, rêvent de s'évader, où toute une nouvelle génération de chanteurs comme Charles Trenet, Jean Sablon ou encore la jeune Mireille se sont mis à des rythmes syncopés et plus vraiment à ce qu'on appelle de l'opérette. C'est aussi dans quelques années plus tard, qu'apparaissent les tout premiers congés payés à l'aune du Front populaire. Et à ce moment-là, Mireille entraîne toute la France dans un imaginaire de petite route avec son petit chemin qui sent la noisette.
Oh, que c'est gentil par ici! Oh.
Ce petit chemin pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner, et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, en ce petit chemin, la nuque-nuitette, on le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales où les vieux cantonniers sont rois ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et leurs photos télégraphiques font un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. Ah ben les routes rebattues, les tas de pierres, la poussière et l'herbe jaune des talus, les cantonniers il n'en faut plus. Nous avons pris un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, en ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés et puis sur ta figure toute barbouillée de murs pour nous observer. Des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mes lièvres au passage nous a dit soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin, chemin.
La délicieuse Mireille et son petit chemin qui sont la violette ou la noisette, qui traduit bien ce désir d'évasion qui pointe à l'orée de ces années 30 en France et qui se multiplie avec évidemment l'essor de l'industrie automobile et la généralisation des congés payés. Tous les Français, eux aussi, commencent à pouvoir rêver à la plage, à la campagne, réalité qui était en fait relativement abstraite jusqu'ici pour une immense partie de la population. En même temps que cet essor du concept même de vacances et de loisirs, on connaît un essor fulgurant de l'industrie du disque. Industrie du disque qui commence à très bien comprendre à quel point la musique et notamment le succès peut générer de sous. À l'époque, on parle d'un saucisson pour parler d'une chanson qui se vendrait bien. Le terme de tube, on a du mal à imaginer, à vraiment comprendre d'où il est finalement sorti, mais on croit qu'on le doit à l'un des hommes qui a le plus joué sur les mots et sur les images qu'il convoque. C'est tout simplement l'inimitable, le génial écrivain, musicien Boris Vian, qui, on le sait peu, à la fin de sa vie, travaillait chez Eddie Barclay, dans l'industrie musicale, où il réussissait à pondre des chefs-d'œuvre parfaits tout en ayant une distance absolue critique et salvatrice à l'endroit même de cette industrie qui le nourrissait. C'est Boris Vian qui aurait inventé le terme de tube. Le terme de tube reprend un peu l'idée du saucisson. C'est une forme oblongue, c'est-à-dire qu'on peut en tirer au kilomètre du tube et qu'on peut aussi en couper des tranches. On trouve deux occurrences du terme tube dans un livre génial de Boris Vian qui s'appelle En avant la zizique, par ici les gros sous. On produirait donc du tube au kilomètre et Boris Vian ne se compte tente pas d'inventer le mot, il finit par en faire une chanson, chantée plus tard par Henri Salvador, qui contient en soi tout ce que le tube est comme promesse à la fois pour l'auditeur mais aussi pour le producteur qui va en tirer bien des sous. Il y a plus ou moins toujours une histoire d'amour. Écoutez, Boris Vian, Henri Salvador.
V'là les accessoires pour faire un succès. Une rue, un trottoir, une môme bien roulée. Un gars, chandail noir et cheveux collés. Rengaine qui traîne, ni triste ni gaie. Voilà les accessoires, messieurs dames, entrez. La fille et le gars se sont rencontrés. Entre deux, il y a soudain quelque chose qui survient. Dans la nuit, les voilà partis. V'là les accessoires d'une histoire d'amour. Un bar, un comptoir, du pinard bien lourd. Le gars a regardé la fille dans les yeux. Cocotte, tu me bottes, on va vivre à deux. Elle a dit, mon chéri, je ferai ce que tu veux. La nuit les a pris, c'était merveilleux. Mais demain c'est fini, y a plus rien que la vie. Faut de l'argent pour payer l'amant. Une rue, un trottoir, une môme fatiguée. Monsieur qui passait, voulez-vous monter ?
Le tube dans lequel Boris Vian et Henri Salvador exposent les ingrédients immanquables d'un tube et prophétisent déjà l'épuisement que l'on ressent à les voir, à les entendre inlassablement et puis à les voir revenir se répéter dans la structure. C'est évidemment ce qui va se passer avec ces tubes de l'été, mais on y revient plus tard. Ces tubes de l'été qui non seulement nous hantent, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, et qui reviennent nous hanter dans le sens où la plupart de ces tubes reviennent inlassablement, sont repris. En 2022, on y reviendra, des musiques qui s'annoncent comme les tubes de l'été, notamment Suavemente, repris par le rappeur Soul King, sont des reprises de tubes de l'été qui datent eux-mêmes des années 80 et 90. Pourquoi sommes-nous si sensibles finalement à ces tubes que souvent nous subissons, mais qui pourtant, immanquablement, évoquent quelque chose de notre mémoire, de notre vie? Le philosophe Peter Zendi s'est penché sur cette question avec notamment deux ouvrages, Écoute une histoire de nos oreilles et la philosophie du jukebox. Il a identifié un concept qui lui semble très fort, celui de hantise mélodique.
Bien sûr qu'il y a un certain rapport entre la présence, oui, médiatique d'une chanson et son degré d'imprégnation, son degré de prégnance dans une âme d'auditeur. Évidemment, c'est indéniable. Mais ça n'est pas la seule possibilité pour qu'il se crée de la hantise mélodique. Or, ce qui se passe avec la hantise mélodique, c'est un phénomène, au fond, de répétition, c'est-à-dire d'échange. La même mélodie mélodie se répète à des milliers d'exemplaires dans notre psyché. Elle y devient une sorte de cliché, de banalité. Et le paradoxe qui m'intéresse, qui est un paradoxe, je crois, très qu'il faut penser, c'est que c'est justement à travers cette multiplication du banal, du cliché, qu'on accède à quelque chose d'unique. Parce que on le sait tous, un tube, qu'il soit clandestin ou martelé sur le marché, un tube est capable de venir saisir en nous, de venir évoquer en nous ce qu'on a vécu d'absolument singulier tel été, à tel moment, et il restera à jamais la métonymie de cette chose à nul autre pareil.
She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say,
2, 3, 4, tell the people what she wore.
It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay.
2, 3, 4, stick around, we'll tell you more.
She was afraid to come out.
Itsy Bitsy Teeny Weeny Bikini. Nous sommes en 1960 et c'est un très jeune adolescent qui chante cette chanson. Il s'appelle Brian Hyland et il chante une chanson qui ne sera pas que ce que Peter Sandy désignait comme une métonymie des instants de nos vies, principe selon lequel les tubes de l'été finalement incarnent quelque chose parce qu'ils transcendent quelque chose de notre mémoire. Ils répondent aussi parfois, qu'on l'oublie ou non, à des impératifs de moments collectifs et sont une réponse à des grands mouvements sociétaux. En l'occurrence, cette chanson vient tenter de rassurer la population américaine à l'endroit d'un tout nouveau vêtement, le bikini. Bikini qui est très mal toléré par une immense partie de l'Amérique puritaine. Et on sait bien aujourd'hui qu'elle existe toujours, cette Amérique puritaine. Brian Hyland, tout jeune garçon à peine pubère, va, grâce à ce tube de l'été, à la fois bougeant, mais surtout extrêmement drôle, dédramatiser tout le rapport à ce petit vêtement, ce petit costume de bain. Immédiatement, énorme succès aux États-Unis dès le mois de mai. Et donc, en France, on se jette sur la transposition de cette musique, puisqu'en France aussi, la question du bikini pose de vraies questions après l'avènement de la mini-jupe. Tout de suite, c'est une bataille entre les différentes maisons de disques pour faire la meilleure transposition. Il y a l'idole des jeunes qui essaye d'en faire une version très Elvis Presley, mais qui se casse les dents. Écoutez.
Il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Et elle craignait de quitter sa cabine. Et elle tremblait de montrer aux voisins.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois.
Version masculine, version extrêmement américanisée de Itsy Teeny Weeny, c'est Itsy Bitsy Petit Bikini version Johnny Hallyday, très jeune, très Elvis Presley, et sans doute trop masculin pour que cette version fonctionne. Est-ce pour cela que ce n'est pas sa version qui l'a emportée ? On l'ignore, c'est sans doute plutôt grâce au l'immense pouvoir de Lucien Meurice, pape de la musique populaire de l'époque, qui décide de mettre cette chanson plutôt dans la voix d'une femme qui, elle, viendrait du Sud, une femme qui est la toute jeune Dalida. Elle a déjà triomphé l'été précédent avec Bambino, elle est à la fois italienne et égyptienne, et c'est elle qui va remporter la mise avec sa propre version d'Itsy Bitsy Petit Bikini, dans un clip où on la voit d'ailleurs pas en bikini, mais bien en pyjama, mais où elle émeut la France entière.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit, itty bitty teeny weeny.
Première fois,
elle est si petite, si mini, tout petit.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit, 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 teeny weeny, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle petit, petit, teeny weeny, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arriva? Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Son petit, itty bitty, teeny weeny, tout petit, petit bikini.
Succès inénarrable de ce itty bitty petit bikini chanté par Dalida en France et même ailleurs, qui en fait ne fait qu'une chose extrêmement simple, elle raconte l'expérience collective que vivent alors plusieurs milliers de jeunes filles. L'idée, l'expérience même de porter un bikini sur les plages françaises en ce mi-temps des années 60. De la même manière que cette itty teeny weeny fanfare du bikini a extrêmement bien fonctionné dans sa transposition française, l'industrie du disque, qui est en plein boom des yéyés à l'époque, va commencer à compulsivement traduire des chansons américaines. Et parfois, les versions françaises remportent un succès beaucoup plus important que la chanson originale. C'est le cas d'une chanson qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup marquer en 1962, « J'entends siffler le train », qui est la reprise d'une chanson folk américaine sans doute écrite par Eddie West, une chanson qui traînait un peu sur les radios américaines depuis plusieurs dizaines d'années. Pour une raison qu'on ignore, le paroliste Jacques Plante la propose à plusieurs maisons de disques et donc en 1962, il est deux personnes qui enregistrent une version de cette chanson. Hugo Frey, qui est un peu, à l'époque, je vous le rappelle, le Bob Dylan français, mais qui bénéficie d'un public relativement restreint, et un rocker extrêmement énergétique, en tout cas qui se veut le rival de Johnny Hallyday, Richard Anthony, qui va chanter cette chanson « J'entends siffler le train » comme une ballade. Chanson qui n'est absolument pas destinée à devenir ni un tube ni le tube de l'été, puisqu'il n'est que sur la face B de son super 45 tours intitulé « J'irai twister le blues », chanson qui finalement n'aura que très peu de succès. Et cette chanson « J'entends siffler le train » est un succès phénoménal dans la version de Richard Anthony. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, car nous sommes en 1962 et c'est la fin de la guerre d'Algérie. Cette musique qui est nostalgique, qui comporte un refrain où il est question évidemment d'amour, rappelle à tous les appelés de la guerre d'Algérie et à leurs familles les trains qui les emmenaient de l'autre côté de la Méditerranée. Richard Anthony évoque le fait que justement, tous les jeunes partaient faire cette sale guerre et ont chanté ça dans les baraquements. Personne ne l'avait prévu et en tout cas, ça a très bien marché. J'ai failli courir vers toi,
ma vie.
Que c'est loin où tu t'en vas, cette phrase de cette chanson. Et j'entends siffler le train qui devient évidemment la métaphore de ce que ressentent tous les appelés d'Algérie, mais aussi de tout ce que ressentent les pieds noirs, mais aussi toutes les familles juives originaires du Maghreb qui quittent leur pays et arrivent massivement en France, pays parfois inconnu pour certains d'entre eux, à la fin de cet été 1962, garantit un succès nostalgique et presque triste, mais qui va faire officiellement de J'entends siffler le train le premier tube de l'été de l'histoire de la variété. C'est ainsi que le qualifient les magasins. À l'époque, très intéressant de noter qu'un tube de l'été en ce mi-temps des années 60 peut très bien être une chanson triste, peut très bien être un slow. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, on danse encore beaucoup les slows. Au fur et à mesure, les chansons langoureuses ou les chansons lentes vont progressivement disparaître des hit-parades estivaux. Mais néanmoins, dans ces années 60, on peut encore avoir quelques surprises. Et c'est ce qui se passe notamment pour une comédienne qui écrit gentiment des petits textes de chansons et qui souhaite évidemment les voir mettre en musique par les chanteurs qu'elle admire en ce début des années 60. Françoise Dorin, c'est son nom qu'on a beaucoup vu à la télévision et dans le cinéma français de l'entre-deux-guerres, a des petits problèmes de sous. Elle tente de vendre ses textes à différentes entreprises de disques. Des textes qui sont à la fois trop littéraires et parfois un peu trop tristes, mais qui vont pourtant donner naissance à l'une des chansons les plus traduites de tous les temps du répertoire français. Elle nous raconte cette histoire.
T'es vraiment pas raisonnable d'écrire des choses comme ça. Qui veux-tu qui chante que ces tristes Venises au temps des amours mortes? Enfin, c'est d'une tristesse épouvantable. Non, il me dit, je peux pas faire, de musique là-dessus, c'est impossible. Écoute, fais-nous quelque chose de qui puisse être chanté par tout le monde. Bien, bon, très bien, je suis reparti avec mon petit paquet de chansons sous le bras, et puis parmi mes démarches, je les ai déposées, ces chansons, aux éditions Aznavour, le directeur, très gentil d'ailleurs, qui a jeté un œil sur les textes. « Ah, oh, mais c'est pas mal !» J'ai dit « Oui, moi je trouve aussi !» Mais il me dit... Écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Et de chaque côté de sa chaise, il avait deux piles de manuscrits de chansons. Il m'a dit, écoutez, je vais faire quelque chose pour vous, parce que c'est vraiment pas mal. Je vais les mettre au-dessus. Voilà. Et 9 mois plus tard, l'enfant est apparu. J'ai reçu un coup de téléphone de ce monsieur qui m'avait reçu, dont je ne sais toujours pas le nom d'ailleurs, et qui m'a dit, écoutez, on est en juin, et je crois que vous allez pouvoir passer de bonnes vacances. Ah bon? Et je peux vous demander pourquoi? Oui, parce que monsieur Aznavour vient de mettre de la musique sur une de vos chansons. Alors j'ai dit, ah bon? Laquelle? Puisque j'en avais déposé un paquet. Oh ben, il me dit, comme si vraiment c'était une évidence, que c'est triste Venise.
Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux. Que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas.
Que c'est triste Venise, immense succès de Charles Aznavour qui a été traduit en italien, en espagnol, en allemand, en hongrois et en suédois. C'est dire à quel point le succès de cette chanson a été grand. Succès de la chanson qu'on doit sans doute en fait à cette idée de la nostalgie par anticipation de la fin de l'été quand on aura vécu l'amour de vacances dans laquelle on se complaît avant même d'avoir vécu cette fameuse histoire d'amour. Succès que l'on doit aussi à l'orchestration brillante qui implique, vous l'avez entendu, de la mandoline alors qu'en réalité à Venise, on joue quasiment pas de mandoline, qui est un instrument plutôt napolitain. Mais qu'importe, vous allez le voir, ça ne compte pas vraiment dans les tubes de l'été. En tout cas, ce que c'est triste Venise n'avait, en tout cas au début, rien pour plaire. On ne l'avait absolument pas envisagé comme un tube. Et pourtant, c'est ce qui se passe notamment pour un très jeune chanteur qui tente désespérément de s'imposer dans le milieu de la musique à la fin de l'année 1967. Il s'appelle Julien Clerc. Il se juge bon chanteur, bon compositeur. Il a beaucoup de mal en revanche à écrire de bons textes. Il fait la rencontre d'un très jeune homme qui s'appelle Étienne Rodagil, avec qui il va composer son tout premier album et notamment une chanson intitulée La Cavalerie, qui n'a a priori pas d'image suffisamment forte, suffisamment simple ou suffisamment populaire pour emporter un très grand suffrage et qui pourtant va faire son succès. Notamment grâce à une coïncidence, on pourrait le dire, historique, comme il le racontait lui-même dans La vie secrète des chansons.
Étienne s'inspire de loin de l'équipée sauvage, hein, avec Marlon Brando. Je pense que c'est son idée de la cavalerie moderne. En fait, c'est ça qu'il veut faire là-dedans.
Ça vous parle?
Ça me parle. Ce que je trouve, c'est que c'est beau. C'est la première fois où je vais dans un studio, je mets un casque sur mes oreilles et j'entends ma musique avec un grand orchestre qui la joue. Et là, il y avait une qualité d'air. Et tout d'un coup, quand arrive un orchestre à cordes, ça sonnait. Il y a des gens dans le métier qui vont penser que ça vendra jamais, ce genre de musique-là. Je pense que c'est le cas de Lucien Maurice sur Europe. La chanson va sortir sur les ondes le 9 mai 68, c'est-à-dire le jour des barricades de la rue Gay-Lussac. Là, c'était le moment le plus violent, sans doute, de mai 68 dans Paris. Certaines phrases, certaines lignes pourrait tout à fait être des slogans de 68. En tout cas, j'abolirai l'ennui. Je me demande bien si on n'a pas vu ça sur des murs de temps en temps.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et qui traverse le pays dans le métal et le bruit. Moi, je pense à la cavalerie. Moi, je pense à la cavalerie. Quand s'éloigne la tourmente, tombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Moi, j'entends la frabarabarababa cavalerie. Un jour je prendrai la route, mais aille coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Cavalerie, moi, je pense à la cavalerie, moi.
spectateurs sont en quête de tubes du 1er janvier au 31 décembre. Évidemment, il y a des chansons qui sont dirigées sur la période d'été et qui parlent, vous savez, beaucoup de la mer, du soleil, des amours qui durent 3 mois et qui s'arrêtent au mois de septembre. Mais enfin, le tube peut arriver à n'importe quelle période de l'année. On est à la recherche non seulement du tube, mais aussi des artistes, des talents qui peuvent nous faire faire ces tubes.
Qu'est-ce qui vous permet de penser que ce disque va marcher cet été ?
Le son même du disque, c'est un ensemble de choses qui, quand on parle du son d'un disque, c'est en même temps le thème du disque, la voix de l'interprète et l'arrangement sonore, c'est-à-dire ce qui ressort du son musical. C'est un ensemble qui fait qu'on peut dire que
c'est un
disque a un certain son.
Généralement, les textes des tubes sont d'une simplicité assez avérante.
Mais qui c'est qui contexte cette fragilité des textes ?
Je veux dire que amour rime avec le jour.
Est-ce qu'ils ont là
Vous savez, à partir du moment où il y a 1 million de personnes qui rentrent dans des boutiques pour acheter le disque, ben, il n'y a plus de contestation, c'est le public qui juge de toute façon. Nous, on a fait une marchandise qui est très, très large finalement.
Vous n'avez pas un peu l'impression qu'il est conditionné, ce public ?
Non, franchement. Parce qu'il y a une telle quantité de produits qui ne peut pas être conditionné. Il a le choix le plus grand et le plus parfait qui puisse exister. Alors on va le sortir dans 10 jours ou 15 jours, peu importe. On va immédiatement le mettre en radio, c'est-à-dire aller porter au programmateur un certain nombre de disques dans tous les postes que vous connaissez. Et puis notre amie Catherine Régnier va essayer de présenter ce disque auprès des programmateurs de télévision. Et on va essayer d'avoir des télévisions pour ce garçon. Tout de suite après, on va le mettre en distribution à l'intérieur de notre système. Et à ce moment-là, ça sera au public de juger comme d'habitude, c'est-à-dire il va acheter ou il ne va pas acheter.
Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Précipice est au bout.
Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent.
Quelles ont à dire les étoiles ? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je.
Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Nous sommes au mi-temps des années 80 et tous les bons producteurs de disques, le CD est arrivé, évidemment, suivent les conseils donnés en 73 par La Pointure, Le Titan, l'immense Eddie Barclay, dont vous entendiez à la fois la grande rigueur, la grande efficacité, le grand cynisme aussi à l'endroit de la manière dont on fabrique des tubes de l'été. Les années 80 vont être ce moment assez spécial où on va voir pulluler justement les tubes de l'été, chantés ou en tout cas proposés par des auteurs qui sont quasiment pas des auteurs et qui restent souvent les auteurs d'un seul tube, à côté de ces tubes extrêmement commerciaux qu'on tire à la chaîne, spécialement justement pour ce moment estival. On voit aussi l'émergence, toujours grâce à ce principe du tube de l'été, de certaines grandes plumes, grandes voix, qui parfois vivent aussi une aventure beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe avec la musique. C'est le cas d'Erita Mitsuko, c'est le cas notamment d'Étienne Dao, qui vont, grâce à ces tubes d'été, rencontrer un public très populaire, et grâce à ces tubes de l'été, pouvoir proposer une musique parfois plus savante. C'est le cas d'Étienne Dao qui triomphe notamment avec Weekend à Rome et que ça n'empêchera absolument pas de mettre en musique plus tard, notamment tous les écrits d'André Gide ou de Jean Genet.
Un tube, c'est une chanson qui marche très fort. J'ai la chance d'en avoir plein. C'est confortable d'avoir des tubes. Vraiment, je l'ai constaté quand j'ai fait cette dernière tournée qui était basée sur la plupart du temps sur des chansons qui étaient très connues, enfin comme des moments partagés de manière très longue comme ça avec le public. C'est très fort. Il y a une intro comme ça et tous les gens tous les gens sont un peu en transe et chantent et dansent et c'est un truc de fou. On a terminé à Rock en Seine la tournée, c'était vraiment c'était très beau à voir. J'ai une culture tube. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup la radio, beaucoup les chansons, les Beach Boys, tout ça, enfin tous les yé, tout ça. Donc j'ai une notion de ce qu'est une chanson qui fait 3-10 et qui vous emporte. Mais moi, vraiment, j'aime les tubes.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Ossessivi la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari belli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
L'immense Franco Battiato dans cette chanson Voglio vederti danzare, je veux te voir danser. Franco Battiato, un véritable chercheur, un novateur de la musique en Italie, qui avait exploré à peu près tout ce que pouvait la nouvelle vague, la new wave italienne, la musique électronique, et qui, au détour de cette chanson, rencontre un succès populaire absolument pas prévu. Franco Battiato, qui à travers cette chanson essaie de rendre hommage à toute la complexité de toutes les musiques du monde, particulièrement aux derviches tournées, et qui essaye de faire entendre tous les rythmes de manière très précise de plusieurs cultures, une espèce d'ode à tout ce que peut la musique en dehors de la musique occidentale. En ce début des années 80, c'est un énorme succès populaire, c'est une surprise et ça fait beaucoup de bien, d'autant plus que les tubes de l'été et les producteurs de musique prennent un tout autre chemin, plutôt celui de l'appropriation culturelle et d'une espèce de soupe latino-italo-occidentale qui pèse encore sur nos oreilles jusqu'à aujourd'hui.
Thank you.
la connaissiez, cette chanson, Llorando se fue, nous sommes en Colombie, c'est le groupe Les Carcasses qui chante cette chanson, chanson qui sera reprise de manière un peu mystérieuse au carnaval de Bahia au début des années 80, avec une version portugaise. C'est là que deux producteurs français, dira-t-on qu'ils sont véreux, identifient cette mélodie vaguement latine, peu importe savoir véritablement d'où elle vient. Mais en tout cas, elle ferait un très bon tube de l'été. Ces deux producteurs français mettent sur pied un groupe à peu près à partir de rien, qu'ils baptisent Kaoma. Et ils vont décider de baptiser cette chanson Lambada, qui était en fait le terme générique qui désignait le genre de musique à laquelle cette chanson appartient. Lambada, dont vous connaissez fort bien le destin, elle est l'un des premiers et l'un des plus gros tubes à l'échelle mondiale. Tube qui sera repris, elle est à la base par exemple cette chanson d'un autre tube de l'été, On the Floor de Jennifer Lopez, cette fois-ci en 2010. Commence alors une ère où les musiques des tubes de l'été vont se ressembler de plus en plus, une base vaguement latine, même si parfois elle ne l'est pas. On pourra célébrer, se rappeler toutes les chansons qui revendiquent une appartenance latine, comme par exemple Sur un air latino de Laurie, immense succès des années 2000 en France, chanson qui n'a pourtant absolument rien de latin, ni dans la rythmique, ni dans les instruments. On se dirige à partir des années 2000, des années 80 vers les années 2000, vers une standardisation de plus en plus violente de ces tubes de l'été qui correspondent presque à un modèle mathématique. À partir des années 2000 et jusqu'à quasiment la pandémie mondiale, on notera que quasiment un tube de l'été sur deux, qu'il vienne de Katy Perry, de Britney Spears ou de Rihanna, sont plus ou moins toujours composés par un certain Max Martin, qui est l'un des compositeurs de ces grands cheptels qui composent ces tubes de l'été. Et grosso modo, les tubes de l'été ressemblent à peu près tous à ça. Katy Perry, California Girls featuring Snoop Dogg, on est en 2010, c'est l'un des tubes de l'été qui s'est le mieux vendu et qui est le plus écouté en cette période où se croisent justement les achats physiques et la montée en puissance des plateformes de streaming. California Girls qui a à peu près toutes les caractéristiques en termes de fréquence, de cadence, de ce que sont ou de ce que furent les tubes de l'été au cours de ces 15 dernières années. Mais existera-t-il encore toujours des tubes de l'été? Figurez-vous que depuis 2020, on peine à identifier des tubes de l'été. Pourquoi? D'une part parce que avec l'essor des plateformes de streaming et de YouTube, on n'écoute pas tous forcément la même chose en même temps. Impossible donc de vivre pleinement cette hantise mélodique dont parlait tout à l'heure le philosophe Peter Zlikin. Mais surtout, pas d'expérience collective non plus physique à partir de 2020. À cause d'une certaine pandémie mondiale, on n'identifie pas encore vraiment pour ces deux dernières années de tubes de l'été qui seraient à la hauteur des précédents. On est en tout cas de plus en plus nostalgique, la preuve en est, le tube de l'été 2022, a priori, c'est lui. Running Up, un titre des années 80 qui pourtant est déjà le tube de l'été 2022. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la bande originale d'une série extrêmement regardée à la fois par les adolescents et les adultes, Stranger Things sur Netflix, qui est probablement l'expérience la plus collective même au niveau musical qu'on puisse vivre en 2022, et c'est pour cette raison que Running Up s'annonce comme le tube de l'été 2022. Merci d'avoir suivi cette série musicale. Elle a été réalisée par Luc Jean Reynaud, elle a été mise en onde par Anthony Thomasson et préparée avec le soutien de Lou Quevaux-Villiers. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je précise que Llorando se fue n'est pas une chanson colombienne, mais bien bolivienne. N'hésitez pas à podcaster la série musicale sur toutes les bonnes applis, y compris celle de France Culture.